This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
La fête du cinéma revient du mercredi 30 juin au dimanche 4 juillet. 4 euros la séance. Après tout ce qu'on vient de traverser, la fête du cinéma propose de rêver ensemble et de changer d'atmosphère.
Allons à l'étranger, aux colonies.
Avec quoi ?
Cette idée.
Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer d'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est toi.
C'est la première fois qu'on me prête d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui connent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère ! Atmosphère ! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ?
Pour la fête du cinéma, vous ne pourrez pas changer d'atmosphère en visionnant Hôtel du Nord de Marcel Carné. En revanche, rien ne vous empêche de vous précipiter sur les sorties du 30 juin, comme le Annette de Léos Carax, sœur de Yamina Benguigui, ou le très attendu Président d'Anne Fontaine.
Macron, ça vous fait plus rien ? La trahison, l'humiliation, tout ça ?
Rien du tout. Pas ça.
Et si t'arrives ? Me dis pas que vous avez reparlé de Macron.
Mais pas du tout.
Pas moins de 18 films en compétition cette semaine-là pour gagner les faveurs des cinéphiles. Après une année terrible pour le cinéma, les producteurs retrouvent un peu le sourire avec le retour du public. Sur le premier mois de reprise, plus de 8,5 millions de spectateurs ont retrouvé le chemin des salles. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. La semaine dernière, je vous avais parlé avec Isabelle Lesniak des difficultés rencontrées par la grande famille du cinéma en temps de Covid. Dans ce second épisode, je vous propose de partir à la rencontre d'un jeune producteur au cœur de la tempête du Covid.
On a tourné en sortant du premier confinement, le film de Michel Larocque, qui s'est très bien passé. Et on a tourné là, en mars dernier, et c'est là qu'on a été sinistré avec un cas de Covid, on a dû arrêter notre tournage, etc. Donc oui, là, pour le coup, on est un peu passé par toutes les... on a vécu plein de trucs, quoi.
Pour Romain Rousseau, fondateur de Nolita Cinéma, avec Maxime Delaunay, 2020 n'aura pas été un long fleuve tranquille. Le producteur a accepté de témoigner pour les Échos sur son métier en temps de Covid, un travail complexe, notamment lorsqu'il s'agissait de gérer près de 250 figurants réunis dans les tribunes d'un hippodrome près du Mont-Saint-Michel. Des figurants heureux d'être là, mais aussi du vent, comme on peut l'entendre dans cette vidéo tournée par un journaliste de West France. C'était le 20 mai 2021 pour la 46e et avant-dernière journée de tournage du film Tempête, un film réalisé par Christian Duguay avec à l'affiche Mélanie Laurent, Pio Marmaille, Danny Hustin et Carole Bouquet.
Tempête, c'est un film de Christian Duguay qui est adapté d'un roman qui s'appelle Tempête O'Hara et qui raconte l'histoire d'une petite fille qui va vivre un drame et qui va s'en relever grâce à son amour des chevaux.
Romain Rousseau, vous êtes producteur au sein de Nolita Cinéma, fondé en 2012 avec Maxime Delaunay. Vous n'avez pas chômé en 10 ans, avec des films salués par la critique comme Embrasse-moi, Brillantissime, Lola et ses frères ou Entre elles. Romain Rousseau, l'année 2020 a été un coup d'arrêt pour le cinéma. Comment est-ce que vous avez vécu cette crise ?
Sur le volet entrepreneurial, c'est-à-dire que nous, on est producteurs, on fait des films, on a aussi une société, donc on s'est retrouvés du jour au lendemain à mettre tout le monde au chômage partiel, à fermer les bureaux, à renégocier les crédits, etc., pour pouvoir vivre cette période de confinement. Et en fait, on a été quand même, ça a été ultra rapide, on a été très, très accompagnés. C'est-à-dire que je ne sais plus quel était le jour de l'annonce du premier confinement, mais genre, on a su le dimanche soir que le mardi matin, on était confinés et qu'on pouvait plus, on ne devait plus travailler et rester chez soi. Et je crois qu'en même pas une matinée, on avait appelé toutes nos banques, on avait renégocié tous nos crédits, on avait on a quand même mis, en une matinée, on a mis une boîte en stand-by parce que toutes les instances avec lesquelles on travaillait avaient reçu pour instruction de nous aider. Donc en fait, cette partie-là s'est réglée relativement sereinement et relativement facilement. Après, c'est pas une multinationale, hein, c'est 10 personnes, c'est assez rapide, mais vraiment, on s'est retrouvés tous du jour au lendemain chez nous avec une boîte fermée, quoi. Donc voilà, et après, dans notre chance par rapport à d'autres producteurs et amis, nous, on n'avait ni film en tournage, ni film à sortir. Donc, on n'avait pas d'angoisse de comment on va faire pour terminer ce tournage et non plus de mais quand on va sortir nos films, notre distributeur a dépensé des frais d'édition, qu'est-ce que ça va devenir et qu'est-ce que ça va donner. Donc, nous, on avait de la chance, on pouvait être relativement serein. Et après, on a eu quelques mois pour se poser un peu. On a pas mal réfléchi à l'évolution de notre structure parce que oui, j'avais créé la boîte avec Maxime en 2012, mais on s'était associé il y a 3 ans avec un ami qui s'appelle Mathieu Agron, avec qui on a créé une filiale télé grâce à laquelle on avait produit une série pour France 2 qui était la suite d'un de nos films, Il a déjà tes yeux, de Lucien Jean-Baptiste. Depuis, on a produit pas mal de choses, notamment pour les plateformes, etc. Et voilà, ça nous a permis de nous poser un peu et de nous dire, bon, alors, c'est quoi l'avenir, comment on fait, etc. Et on a bossé avec nos auteurs. On a pas mal avancé sur plein de développements. Donc là, le développement, c'est la phase qui précède, en gros, le financement. C'est toute l'écriture du scénario, tout le casting. Et c'est vrai qu'on a avancé assez vite. Et d'ailleurs, nous, on a fait un film qui est le prochain film de Michel Larocque, qui s'appelle Alors on danse et qui sortira en janvier prochain. Et ce film-là est un film du confinement. C'est-à-dire qu'on l'a écrit pendant le confinement, on l'a casté pendant le confinement et on l'a tourné en sortant du confinement.
On a fait une petite pause avec Romain Rousseau, le temps de changer de téléphone. Il n'y a pas qu'au cinéma que le son est important. On a repris le fil de la discussion pour parler de la façon dont il avait travaillé durant cette période.
Eh bien écoutez, bizarrement ça change pas énormément parce qu'en fait on a quand même très peu besoin de se voir, on a beaucoup besoin de se parler avec nos scénaristes et nos réalisateurs. Mais en fait c'est vrai qu'on peut, on peut travailler à distance, surtout qu'en général c'est des personnes qui ne vivent pas à Paris, enfin ça arrive, donc voilà, donc on sait faire sans se voir. Le métier de scénariste est un métier assez solitaire. Donc voilà, donc on échangeait beaucoup, on se calait des points relativement réguliers. Et puis on lisait. Enfin, en vrai, ça change pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ils écrivent, ils nous font lire là où ils en sont, on échange et on remet le travail sur le métier. Et voilà. Donc là, pour le coup, ça change très peu de choses.
Et pour le casting ?
Et le casting, alors écoutez, nous c'est quelque chose de particulier sur ce projet parce que c'est Michel Larocque qui est aux commandes. Et Michel, elle connaît très bien les personnes à qui on propose les rôles. Donc ça se passe souvent. C'est des personnes qui sont déjà séduites par la personnalité de Michel et par son travail. Donc en fait, il suffit d'un coup de téléphone en disant voilà, j'ai écrit ce film pour toi. Est-ce que tu veux lire ? Est-ce que ça peut t'intéresser ? Et après, c'est presque ça s'inscrit dans une relation d'amitié, quoi. Donc voilà. Sinon, dans le process plus normal, on a des agents qui sont les intermédiaires entre nous et les comédiens. Et ce sont des personnes qu'on arrive à joindre sans difficulté. On leur parle, on leur explique le film, on leur donne la vision, on leur explique où on veut aller et pourquoi on s'adresse à tel ou tel comédien. Et à eux ensuite de faire le lien, de se faire l'ambassadeur du projet auprès de leurs talents. Et à l'inverse, eux vont nous proposer des comédiens. C'est-à-dire qu'on leur fait lire en disant est-ce que tu penses que ça peut intéresser un tel ? Est-ce qu'elle est libre ? Est-ce qu'elle est partante ? Est-ce que c'est possible ? Et l'agent nous dira oui, non. Et quand c'est non, c'est en revanche, j'ai pensé à un tel, peut-être que vous devriez la rencontrer, elle serait super. Et voilà, on travaille vraiment en étroite collaboration avec les agents, en fait.
Romain Rousseau, vous nous avez expliqué que vous aviez d'une certaine façon eu de la chance lors du premier confinement. Pour la suite, c'était peut-être un petit peu compliqué. Vous aviez deux grosses productions en cours, hein, Tempête de Christian Duguay et Alors on danse de Michel Larocque. C'était comment le tournage en temps de Covid ?
Alors, le premier tournage s'est relativement bien passé. C'était le film de Michel Larocque qui était juste en sortant du premier confinement. Bon, après, c'était le début de... On tournait avec des masques, etc. Donc, il y avait un peu de, police à faire. On avait un référent Covid qui était là pour veiller au respect des gestes barrières, etc. Mais écoutez, ça s'est plutôt bien passé avec quelques petites inquiétudes momentanées, infigurantes, dont le mari était contaminé, un régisseur qui a eu le Covid, etc. Donc, on s'est fait des petites frayeurs, mais en fait, il n'y a pas eu d'arrêt. C'est-à-dire que la personne contaminée était écartée du tournage, était remplacée, on faisait attention à toutes les personnes qui avaient été en contact avec elle, etc. Mais on est passé à travers du truc. C'est-à-dire qu'on n'a pas perdu de jour, on n'a pas été fondamentalement ralenti. Il y a évidemment un impact financier parce que financièrement, bah, voilà, il y a des dépenses à prendre en charge. La désinfection d'un plateau, ça n'existait pas avant. Les délais de repas, forcément, il n'y a pas de self-service, donc c'est du service par les gens de la cantine. Donc voilà, il y a une espèce de petite inertie. Il y a un petit ralentissement qui est lié au protocole sanitaire. Donc voilà, donc c'est une enveloppe budgétaire qui est de l'ordre de 30 000 à 50 000 euros en gros pour le premier film, pour À l'heure on danse. Mais voilà, mais sinon tout s'est bien passé. Voilà, après il y a un petit truc qui est moins agréable, c'était du coup on a sans doute fait venir moins d'équipes de télé pour faire des reportages sur le tournage parce que à l'époque on pensait que voir des gens avec un masque ça allait dater le film. Donc voilà, on se disait que le jour où le film sortira, on aura complètement oublié, on sera vraiment passé à autre chose. Et du coup, ce sera un mauvais souvenir de voir des gens avec un masque. Je sais pas si en janvier prochain, on aura complètement oublié. Mais voilà. Mais du coup, on a fait moins de promos sur le plateau. Donc ça, c'était notre premier tournage qui s'est relativement bien passé. Et ensuite, on a eu un second tournage qui s'est merveilleusement bien passé, humainement, artistiquement, pour toutes des raisons qui compteront au final. Dans le succès ou pas du film. En revanche, ça a été un enfer de Covid parce que déjà on a très mal commencé, c'est-à-dire qu'on a tourné 2 jours et notre réalisateur a été testé positif. Donc on a dû arrêter le tournage 10 jours. On a isolé notre réalisateur et les personnes qui avaient été en contact avec lui. On a bien évidemment eu très peur parce qu'il est en contact avec les comédiens en permanence qui n'ont pas de masque. Et voilà. On a eu de la chance. Christian s'est très vite remis. Il n'a pas été malade ou presque pas. Donc on a pu recommencer au bout des 10 jours. Il y a pas eu énormément de personnes contaminées. Il y en a une ou deux qu'on a pu remplacer, etc. Donc ça, on s'en est sorti. En revanche, le gros truc, c'était les galères de plan de travail qui ont suivi cette interruption. C'est-à-dire que on avait passé nos 8 semaines de prépa à préparer un plan de travail, à tout caler. Et tout d'un coup, en 10 jours, on doit tout refaire parce que tout a explosé. Et notamment, je crois que c'était le lendemain de notre arrêt, on devait être à Vincennes, à l'hippodrome de Vincennes, parce que dans notre film, il y a des courses de chevaux. Et on avait 15 jours pour nous. Et bien évidemment, nos 10 jours d'interruption ont condamné ça. Donc, on a dû complètement réorganiser notre plan de travail pour pouvoir décaler dans le temps de notre tournage de 10 jours. Donc ça a été ultra compliqué. On a eu des comédiens qui étaient fantastiques, qui étaient Mélanie Laurent et Pio Marmaille, qui ont vraiment joué le jeu. Ils n'étaient pas dispo après, ils ont accepté, ils ont reporté des obligations, ils ont été là, ils nous ont vraiment aidés. Mais tout le monde a joué le jeu. Vraiment, c'était... dans les moments un peu durs en général, quand on est une équipe qui est avec nous et avec le réalisateur et derrière elle pour faire un film, ça se passe plutôt très bien. Et dans une énergie barge, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit tous, bon allez, je sais pas comment, mais on va y arriver, quoi. C'est un peu le truc, on est comme en ski, on est tout en haut de la montagne, on voit pas comment ça se termine en bas, mais faut y aller, parce que sinon on n'y arrivera jamais, quoi. Donc on est parti là-dedans, et puis là, bah, ça a été la galère, parce que on s'assure que l'essentiel fonctionne, donc les dispos des comédiens, les dispos de nos décors principaux, les autorisations de tournage, etc. Et on part là-dedans, sauf qu'on n'a absolument pas réglé tous les petits détails. Et donc, on se retrouve avec, je ne sais pas, pour vous donner un exemple, on avait une journée de course à Vincennes, donc qui a été décalée. Et sauf qu'on s'aperçoit 2 jours avant la course que, tous les figurants, c'est-à-dire que pour faire les courses, on a pris bien évidemment des vrais drivers, des vrais équipages, donc chevaux, drivers, etc., des vraies écuries. Et voilà, et les gars étaient dispo pour les premières dates et absolument pas pour les nouvelles dates. Donc en 48 heures, on doit retrouver intégralement 15 drivers plus chevaux, etc. Donc voilà, mais on est arrivé au bout, on a été beaucoup aidé par l'énergie de notre réalisateur et le fait qu'il arrive à fédérer justement les énergies de toute l'équipe, on a été aidé par le temps et voilà, et on a fini 15 jours plus tard que prévu. Il nous reste sans doute une journée qu'on tournera en octobre-novembre, parce qu'en fait, comme c'est un film qui se déroule, c'est toute la jeunesse d'une petite fille, c'est un film qui se déroule sur plusieurs années, et donc en fait on a un problème de temporalité des saisons qui passent, et les 10 jours d'arrêt au tout début du tournage, on a un peu perdu notre partie hiver quoi, qu'on comptait faire début mars, et quand on a repris le tournage, c'était 15 jours pendant lesquels les feuilles ont poussé, les arbres sont devenus verts, et voilà quoi.
Financièrement, ça a aussi été compliqué ?
Financièrement, on a été sauvé par ce qui a été mis en place par le CNC, qui est le fonds Covid et qui nous a vraiment ultra. En vrai, ils ont pas fait grand chose. Ils sont juste là et c'est essentiel qu'ils soient là. Ils nous prennent en charge 85% des dépenses, donc des dépenses liées au Covid, des dépenses supplémentaires liées au Covid. Donc ça, c'est quand même essentiel parce que du coup, 15%, on arrive à l'absorber sur le budget d'un film. Et voilà, ils ont tout de suite été ultra aidants, ultra rassurants en nous. Dès le premier jour, le jour du sinistre, on les a appelés, on a fait notre déclaration de sinistre et on s'est fait une réunion téléphonique avec eux. Et voilà, on leur a dit juste dites-nous exactement ce qu'on peut faire, parce que là, en fait, on va rentrer dans une période de bordel monstre où tout va partir en éclats. Donc, il faut vraiment que vous nous disiez ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on peut pas faire, parce que on pourra pas découvrir. Enfin, ce serait catastrophique de découvrir dans 6 mois qu'on a oublié de faire un truc ou qu'on a mal fait quelque chose et que du coup on est privé de ce fonds Covid. Et les personnes du CNC nous ont dit, vous savez quoi, en fait, vous allez faire votre film, vous allez faire comme vous pouvez, vous allez vous en sortir. Rendez-vous dans 6 mois, ne vous inquiétez pas, on sera là et on vous aidera. Et du coup, c'est ultra appréciable d'être autant rassuré et aidé par le CNC dans des moments où ça cartonne, quoi.
J'aime beaucoup aller au cinéma en fin de matinée, vers 11h, j'adore. Bon, déjà parce que y a moins de monde, hein, c'est bien sûr le principe. Et puis, je sais pas, ça commence ma journée. Enfin, ça commence ma journée, c'est le mec qui se lève à 10h, c'est la grosse feignasse. Non, mais j'aime bien ça parce qu'après, je peux penser au film toute la journée. Ça me plaît, et puis après je sors, c'est l'heure du déjeuner.
Il y en a qui préfèrent la séance de 11h, comme Jean-Paul Rouve, interrogé pour l'opération « On ira tous au cinéma » il y a un an. D'autres préfèrent celle de 18h ou encore la dernière séance. Romain Rousseau l'a sorti au cinéma de Tempête et de Alors on danse, c'est encore un peu lointain, mais l'important pour vous, ce sera de ne pas rater la sortie cinéma.
Ouais, c'est de ne pas rater la sortie cinéma, évidemment. C'est des films sur lesquels on a beaucoup, beaucoup d'enjeux, nous, artistiques et financiers, parce qu'on y croit beaucoup, évidemment. Bon, après, on croit toujours à nos films, hein, donc ça, c'est... Voilà. Mais on a bien évidemment envie qu'ils fonctionnent, avec toutes les incertitudes qui sont liées à comment vont se comporter les films post-réouverture des salles de cinéma, avec l'arrivée des films américains, etc. Donc oui, faut pas se rater comme d'habitude avec le cinéma, mais en même temps c'est ce qu'il y a de fantastique quoi, c'est que le mercredi matin on débarque dans une salle de cinéma à Paris, enfin au Hall en l'espèce, et on se dit bon bah voilà, c'est du poker, ça peut rien faire ou ça peut être magique quoi. Donc ouais, faut pas se rater, évidemment faut pas se rater, et en plus c'est des films qui sont attendus, donc c'est des films populaires, le film Tempête va être un grand film de divertissement, on travaille avec TF1 et Pathé, on n'a pas envie de les décevoir, enfin voilà quoi. Donc oui, on ne doit pas se rater.
Certains craignaient que cette crise fragilise un peu plus les cinémas au profit des plateformes de streaming par exemple, qu'est-ce que vous en pensez vous, c'est une menace ou une chance pour un producteur?
Alors il y a plein de choses différentes. Je pense que pour être producteur, il faut être un peu optimiste, en fait. Il faut avoir envie que les choses s'améliorent, parce que sinon, si on voit le mauvais côté de la pièce, c'est un peu compliqué. Donc, nous, on pense que c'est une chance. On a envie d'y voir une chance. Ça oblige tous les partenaires du cinéma, j'intègre les plateformes hein, quand je dis cinéma, à travailler ensemble. Il faut qu'ils se parlent. Ils vont trouver des solutions de cohabitation. En ce moment, c'est une situation de bras de fer, mais qui donnera obligatoirement lieu à des accords. Et un jour, on arrivera à faire des films avec TF1 pour l'antenne, une exploitation sur Netflix ou Amazon. Et voilà, et chacun aura sa place dans l'économie du cinéma. Et à côté de ça, il y a une économie qui est celle des plateformes, où on fait des films pour les plateformes, comme on fait des films pour les chaînes de télévision. Et c'est une aubaine, parce que mine de rien, c'est pas les mêmes œuvres. Donc nous, ça nous permet de développer plusieurs typologies d'œuvres audiovisuelles. Et c'est vrai que pour nous, producteurs, c'est ultra kiffant d'être des touche-à-tout, quoi. Donc on est très optimiste et très content de ce bouleversement qui est le bouleversement est de toute façon inhérent au cinéma. On va pas reparler de l'arrivée de Canal, de l'arrivée du DVD, de tout ce qui devait mettre à mal le cinéma, et à chaque fois le cinéma en sort pas spécialement plus fort mais enrichi et différent, et voilà, et on va continuer à faire des films évidemment.
Arlette Azemar, la plus vieille agent de Paris. D'ailleurs, elle dit pas agent, elle dit impresario. Ah. Tu vois les dinosaures de Jurassic Park?
Oui.
Bah, c'est elle qui les représentait.
Et Andrea, elle lit pas.
Tu rigoles? Ça n'existe pas, Andrea lit pas. Andrea lit tout. Et je dis bien tout, de la plus grosse comédie potage qui tâche au petit film indépendant kurde. Elle veut pas risquer de passer à côté de quelque chose de grand.
Un dernier mot, si quelqu'un venait vous proposer un projet de film sur une pandémie mondiale, vous répondriez quoi?
Je lirais. Bien évidemment, on lira, parce que c'est un... Bon, enfin là, c'est pas vraiment un pitch, parce qu'il faudrait savoir comment on raconte l'histoire au sein d'une pandémie mondiale. Ce sont des périodes barges, en fait. Donc déjà, c'est un cadre fou. Nous, quand on développe des histoires, alors vous avez vu les films qu'on a produits, on fait pas des films avec des pitchs très forts. Enfin bon, ça dépend, mais on raconte surtout de l'humain. Bon, voilà. Donc on a fait notre premier film avec Jean-Paul Rouve et voilà, et on a été un peu baigné à ce qu'il aime, et du coup on aime les films où on raconte des histoires de gens, quoi, des histoires de vie. Et du coup, c'est vrai que quand on travaille sur un scénario, on travaille la trame narrative, quoi, enfin ce qui se passe dans ce que raconte notre histoire, mais aussi il y a toujours un truc, c'est quel est le cadre, où se passe l'histoire, elle se passe à quel moment. Et du coup, c'est vrai que cette pandémie est un décor fabuleux, comme l'histoire d'amour de Titanic et Barge, parce que en fait le décor c'est le Titanic, mais en fait ce qui est fort c'est l'histoire d'amour. Donc, bien évidemment on s'y intéresse, et c'est pas un gage de qualité, de réussite, de machin, mais c'est vrai que c'est un décor de Barge.
Bon, va falloir que je travaille un peu mieux le pitch, alors merci beaucoup.
Je vous en prie.
Merci Romain Rousseau de Nolita Cinéma, une discussion qui m'a donné envie de retourner dans une salle obscure. La bande-annonce de Président m'avait déjà donné très envie, mais je suis assez curieux aussi de ce que donnera ce Alors on danse avec Isabelle Nanty, Thierry Lhermitte et Patrick Timsit. La story s'est terminée pour aujourd'hui, l'émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet.